France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernat.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et les voilà, haletants et pétillants partout, à l'assaut de l'actualité, tel un Jean-Vincent Placé attaquant la nuit parisienne, enfin en début de soirée, hein, parce que voilà, bref, ils sont en forme. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent la philosophe et essayiste Bérénice Levet, bonsoir.
Bonsoir.
Et également Henri Vernet, bonsoir, du bonsoir. Parisien aujourd'hui en France, Mathieu Aron, bonsoir, bonsoir. De l'Obs, et Pierre-Jacques Main, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Regard. Et ce soir, on parlera de Facebook. Alors, est-ce le crépuscule, la politique, tu l'aimes ou tu la quittes, la proportionnelle, l'arme anti-abstention, la fronde anti-Macron, une réalité. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors, dans le jargon journalistique, il existe une expression, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Et en gros, s'il n'y a pas de souci, ça ne vaut pas la une, Coco. Et pourtant, là, après deux jours de grève particulièrement suivis, on peut dire que les trains à l'heure font la une, et oui. Trafic normal aujourd'hui et demain, avant une reprise du mouvement des cheminots, dès samedi soir jusqu'à lundi inclus. Pendant ce temps, les négociations continuent, puisqu'aujourd'hui, syndicats et ministres, et encore à l'heure qu'il est d'ailleurs, hein, se sont donné rendez-vous pour parler ouverture à la concurrence et du financement ferroviaire. Ce matin, Édouard Philippe s'est dit ouvert à la reprise d'une partie de la dette de la SNCF par l'État, mais avec contrepartie des engagements extrêmement clairs, extrêmement fermes et qui transformeraient, je cite, le fonctionnement opérationnel de l'entreprise. Un message pas vraiment reçu 5 sur 5, vous allez l'entendre par les syndicats, comme l'explique Laurent Brun, il est secrétaire général de la CGT Cheminots.
Les annonces du Premier ministre sont plutôt à la rigidification du dialogue, donc malheureusement, nous craignons que les usagers et les difficultés qu'ont vécu les usagers ces deux derniers jours n'aient pas vraiment eu d'impact sur l'attitude du gouvernement qui durcit encore le ton.
Voilà, Laurent Brun, donc secrétaire général de CGT Cheminots. Mathieu Aron, est-ce que finalement, en abordant la dette, en disant que chacun devait faire des efforts, c'est-à-dire qu'on pourrait la reprendre, l'État, si, bien sûr, du côté des cheminots, on accepte la transformation, c'est quoi, c'est un chantage
qu'a fait Philippe ? Clairement, c'est une forme, on va dire, de chantage, ça me semble assez évident. C'est-à-dire qu'on va faire un effort et on va enfin essayer d'assainir, ou plus exactement de reprendre cette dette, si vous acceptez effectivement d'avoir des conditions de travail qui évoluent. Après, le problème, c'est que, si vous voulez, cette dette, elle est ancienne. Elle est très ancienne. Ça fait des décennies et des décennies qu'il y a cette dette qui court. Donc, les cheminots qui, aujourd'hui, sont en poste, ne sont pas en responsabilité vis-à-vis de cette dette. Donc, le fait de faire le lien comme ça entre vous allez vous faire un effort pour résorber cette dette que l'État français reconduit de manière éternelle depuis des décennies, à quelque chose d'un peu particulier quand même.
Et Pierre-Jacques Massaric, c'est 55 milliards de dettes, c'est un montant quand même impressionnant. D'après vous, c'est possible que ça soit repris, cette dette, c'est-à-dire qu'on la paye aussi, nous?
D'abord, Emmanuel Macron a conditionné le principe de cette réforme avec la reprise de la dette. Donc c'était un engagement de sa part. On sent aujourd'hui qu'il y a le verrou de Bercy qui commence à planer sur les décisions politiques et on attend un arbitrage, même s'il y a eu des signaux qui ont été envoyés ce matin par le Premier ministre. On attend un signal fort sur la reprise de cette dette. Il faut quand même rappeler effectivement ce qui vient d'être dit, c'est que la dette, elle vient pas de nulle part. Aujourd'hui, on voudrait faire porter le chapeau aux cheminots, alors que cette dette, elle vient de décisions de libéralisation en 97 de la SNCF, hein, avec des trois entreprises qui ont été créées à ce moment-là. Et puis aussi, elle vient du fait qu'il y ait des décisions majeures qui ont été décidées. Les quatre grands chantiers des grandes lignes de train, les LGV, les grandes lignes qui ont été ouvertes ces dernières années. Et ça a aggravé effectivement le budget de la SNCF. Donc aujourd'hui, quand on nous sort le chiffre de 50 milliards d'euros de dette, d'abord, il faut rappeler que la dette, c'est pas grave. C'est aussi un pari sur l'avenir. C'est aussi un investissement sur l'avenir.
C'est beaucoup,
et
là,
deux,
quand même.
Hein. Certes, c'est beaucoup. Mais on sent d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui Bercy freine des deux pieds pour reprendre cette dette dans le giron de l'État. C'est aussi parce qu'il y a des engagements qui sont pris auprès de l'Union européenne et que si la dette revient dans le giron de l'État, Bruxelles risque de faire un peu la tête. Mmh. Donc là, l'État aujourd'hui est un peu embêté et aujourd'hui, les syndicats attendent plus que cette reprise de la dette. Ils attendent un investissement aussi.
Oui, alors bien Bérénice Levet.
Justement, c'est peut-être la question des syndicats qui est ici en jeu, parce que je crois que c'est une question sur laquelle les syndicats ont quand même des positions divisées, ou en tout cas la CFDT est prête à faire quelques concessions si cette dette est reprise.
C'est ce qu'a dit Laurent Berger ce matin.
Oui, donc c'est assez stratégique que de mettre l'accent sur cette question-là en tout premier lieu, puisque ça risque de diviser plus encore le front syndical.
Alors c'est ça, on va dire, là, est-ce que finalement, là, cette dette, au départ, Édouard Philippe n'en parlait pas dans son discours, hein, il parlait justement du statut cheminot.
Enfin, comme ça a été rappelé, c'est vrai que ça faisait partie du deal de départ. C'était dans la fameuse interview qui était à l'époque un ballon d'essai à l'automne dernier, Emmanuel Macron, où il avait bien mis cet échange, ce deal sur la table. Mais c'est vrai, le but est clairement, en effet, de diviser le front syndical. Vous dites qu'il n'existe pas, si, là, pour le coup, sur ce coup-là, là, sur cette affaire, il marche jusqu'à là. On voit qu'il y en a certains qui sont plus bout de feu que d'autres, hein, comme Sud notamment, mais ça, c'est la culture, j'allais dire un petit peu mauvaise contexte, puisqu'on est dans les cinquantenaires de mai 68, de Sud, hein, qui est beaucoup en prise avec les âgés. Mais sinon, sur les syndicats, pour l'instant, ça tient. Et là, en effet, il y a une brèche qui peut s'ouvrir. C'est intéressant. C'est un appel du pied qui peut être en effet très intéressant pour la CFDT, pour Laurent Berger. Pourquoi? Parce que quelque part, ça permet aussi aux syndicats de revenir sur une image un peu plus constructive, plus, j'allais dire, positive, dans la mesure où c'est quoi les termes de l'échange? C'est on reprend la dette, ça vous laisse de la marge de manœuvre pour investir. Or, tout l'enjeu pour les syndicats aujourd'hui, c'est de montrer qu'ils ne sont pas uniquement arc-boutés sur la défense du statut, qui elle fait pas totalement l'unanimité, hein, mais également sur la qualité du service, sur une SNCF qui soit de nouveau plus performante, qui investisse, qui se modernise. Or, c'est ça qui serait possible avec l'argent qui serait libéré, avec des marges de manœuvre. Et ça, pour des syndicats, ça peut être intéressant. En revanche, il faut voir maintenant si Laurent Berger a intérêt à se saisir de ce bâton-là, sachant qu'il a des comptes à régler avec Emmanuel Macron.
Bien sûr, Mathieu Aron.
Alors oui, j'entends que la dette peut servir de porte de sortie honorable aux deux partenaires dans ce conflit social. En même temps, il faut être clair. Les cheminots n'ont pas grand-chose à voir avec cette dette. Mmh. Cette dette, elle s'explique principalement par le fait que ça coûte très cher des installations ferroviaires. Cette dette, elle date, je sais pas à quand il faut exactement la faire remonter. Certains la font remonter avant la Première Guerre mondiale. Donc elle perdure
avant
depuis
la création de la SNCF.
Elle est liée au fait que effectivement on a un réseau ferré. Alors dans la SNCF, il y a deux choses. Il y a d'un côté les trains qui effectivement permettent aux voyageurs de voyager, et puis de l'autre côté il y a les installations ferroviaires. Or, on sait que la dette, elle a été produite par les installations ferroviaires, par les lignes anciennes qu'il faut constamment, effectivement, entretenir, et puis, comme vous le rappeliez, les lignes nouvelles. C'est pas parce que des cheminots voyagent gratuitement qu'il y a la dette à la SNCF.
Oui, c'est ça. Faut pas, voilà. Allez, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Édouard Marguier.
La garde à vue de Jean-Vincent Placé est prolongée par le parquet de Paris. L'ancien secrétaire d'État a été interpellé cette nuit à Paris en état d'ivresse. Soupçonné d'avoir importuné une jeune femme et d'avoir insulté un videur et des policiers, le sénateur qui se trouvait avec lui a demandé à être entendu par les enquêteurs cet après-midi. Carles Puigdemont sort de prison. Il est remis en liberté en Allemagne sous contrôle judiciaire. Le tribunal du Schleswig-Holstein a estimé que l'extradition de l'ancien président catalan vers l'Espagne ne pouvait pas se faire sous le motif de la rébellion, comme le demande Madrid. Pour le juge allemand, seul le détournement de fonds publics peut être retenu. La réunion sur la SNCF s'éternise autour de la table depuis 14h30. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, et les organisations syndicales. Il est évidemment question de la réforme ferroviaire qui a déclenché la grève. La CGT cheminot a dénoncé la rigidification du dialogue côté gouvernement. Le Premier ministre Édouard Philippe a dit ce matin sur France Inter être ouvert à la discussion, mais pas n'importe comment. EDF nous ferait payer des surcoûts faramineux. L'UFC Que Choisir accuse l'électricien d'avoir empoché 2,4 milliards d'euros en trop entre 2012 et 2016. Les factures d'électricité sont volontairement alourdies par EDF. Selon l'association de consommateurs, l'entreprise conteste et menace de saisir la justice. Édouard Baird de retour à Cannes. L'acteur sera le maître des cérémonies d'ouverture et de clôture du festival cet été. Il l'avait été en 2008 et 2009. L'an dernier, dans ce rôle, c'était Monica Bellucci.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. En ce moment, les syndicats et la ministre des Transports discutent, et ça depuis 14h30. C'est dire, hein, s'ils ont vraiment des choses à se raconter. Et ce matin, Emmanuel Macron, eh bien, a souhaité justement s'exprimer, alors pas vraiment sur le sujet, mais plutôt sur le sujet des réformes. Peut-être avez-vous suivi, il était en déplacement dans un CHU à Rouen. Il y a eu des échanges d'ailleurs un peu animés avec certains personnels hospitaliers, mais il a parlé des réformes, et pour lui, eh bien, il comprend tout le monde. Bref, ça ne change pas Emmanuel Macron.
Il y a toujours des inquiétudes, parfaitement légitimes. Moi, je veux distinguer les sujets. Il y a aujourd'hui des sujets sur lesquels le gouvernement a fait des annonces qui font l'objet de réactions, de protestations qui sont totalement légitimes, qui supposent un travail, des explications continues de la part du gouvernement quant au changement et à son sens, et qui vont continuer à vivre leur vie, qui ne doivent pas empêcher pour autant le gouvernement de gouverner, de continuer à prendre des décisions et de faire des choses importantes pour des millions de nos concitoyens comme ce que nous sommes en train de faire.
Voilà, Emmanuel Macron. Alors, Bérénice Lebel, là, on est vraiment dans le en même temps. Hein. C'est-à-dire, c'est formidable, tout le monde manifeste, et c'est formidable en même temps, tout le monde soutient là, pour Emmanuel Macron.
Oui.
On est, alors, les opposants parlent de cette réforme comme d'une posture idéologique de la part du gouvernement. Est-ce que vous avez l'impression que c'est une posture idéologique?
Ce qui est certain, c'est que on sent bien l'indifférence complète d'Emmanuel Macron à l'endroit des contestations. Il semble dire qu'il continue, enfin qu'il s'oppose, mais de toute façon le gouvernement continue de gouverner. Donc oui, il y a une ligne idéologique au sens où il ne veut pas entendre la moindre critique.
Je pense que sur l'idéologie, ce que disent les opposants, c'est plutôt le côté libéral. Ils disent
évidemment, de toute façon, ça c'est tout à fait intéressant parce que on a la confirmation de ce qu'il y avait dans le programme d'Emmanuel Macron. Moi, je me souviens toujours de cette formule et j'ai publié des tribunes à l'époque, adapter la France au monde. Mmh. Il l'avait promis, c'est exactement ce qu'il fait. Mais justement, si nous ne voulions pas voter pour lui, c'était précisément parce que on ne suivait pas sur ce point. Donc là, effectivement, il reste inflexible par rapport à cette ligne.
Henri Vernet, c'était annoncé, alors peut-être par Emmanuel Macron, sauf alors les ordonnances.
Bah, la SNCF, en l'occurrence,
sur la SNCF, c'était pas annoncé, non. Il en avait discuté. mais est-ce que finalement, aujourd'hui, la France, on dit toujours, elle n'a pas le choix par rapport à l'Europe? Aussi, c'est ça.
Alors, l'Europe, notamment la SNCF, c'est en effet un dossier qui correspond à une exigence européenne. Maintenant, inflexible, moi, je suis pas si sûr libéral non plus, d'ailleurs. Ouais. Emmanuel Macron, il reste un dirigeant français, c'est-à-dire que dans un dirigeant français, il y a toujours une bonne dose de colbertisme et d'étatisme. Alors, certes, bien moins marqué chez Macron que chez ses prédécesseurs, mais malgré tout, quand on regarde, même au niveau européen, je veux dire, l'action qui a été menée, par exemple, sur les travailleurs détachés, même si elle n'est pas aboutie, ce n'est pas une action libérale au sens du libéralisme qui domine aujourd'hui les États européens. Donc non, il n'est pas totalement libéral. Alors par ailleurs, pour revenir plus exactement sur la contestation, le chahutage de ce matin, justement, je trouve pas qu'il soit si inflexible que ça. Le en même temps, d'ailleurs, n'est pas de l'inflexibilité. Quand il dit qu'il l'entend, ça peut, rappelez-vous Villepin, le CPE, j'entends ceux qui manifestent, j'entends aussi ceux qui manifestent pas. Bah là, il entend, il dit légitime, contestation légitime. Ça, c'est un petit tacle qui est envoyé. Non, c'est un tacle qui est envoyé aux zélotes, vous savez, LREM, les marcheurs, ouais, qui vont sur tous les plateaux disant rien va bouger, qui parlent de gréviculture, etc. Non, là, on sent qu'il y a de l'inquiétude, qu'il y a une prise en compte à avoir, qu'il y a peut-être un petit redressement de barre opéré. Certes, la réforme, le cap des réformes reste, ce cap-là reste, mais on sent quand même qu'il y a une possibilité, une fois, on vient d'en parler, d'ouverture minimale, certes, mais enfin, avec la dette vers les syndicats, d'avoir un dialogue. Et puis, je pense que Macron, à un moment ou un autre, là, il va descendre dans l'arène parce que pour l'instant, il est le grand absent.
Vous n'êtes pas d'accord, justement, avec ça?
Moi, j'entends vraiment juste des mots, mais ce sont des mots vides. Enfin, non, il n'y a rien derrière. Je fais pas du tout crédit d'être prêt à entendre quoi que ce soit.
Pierre Jacquemin.
C'est d'ailleurs tout le sujet, c'est que je pense que depuis le début du quinquennat, d'ailleurs, ça a été vrai pour la loi travail, ça l'est aussi pour sur ce projet de loi sur la réforme de la SNCF, il n'y a pas de négociation. Or, un syndicat aujourd'hui, en tout cas la tradition des syndicats, des partenaires sociaux, c'est de négocier les conditions de travail, négocier les progrès sociaux, négocier l'univers professionnel. Or, aujourd'hui, le gouvernement, et d'ailleurs on l'entend dans le vocabulaire, hein, c'est aussi une question sémantique, on est passé de la négociation à la concertation, à la consultation.
Aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas pour vous.
N'a pas toujours été le cas. Et ça a été le cas au moment de la loi travail. C'est-à-dire qu'on a proposé un projet, on a dit c'est comme ça ou c'est pas autrement. Mmh. Et c'est exactement comme ça que ça se passe aujourd'hui. Et avec des arguments qui ont été très faux. Au moment donné, la loi travail, on nous a dit on fait une loi travail pour créer de l'emploi. C'est ce qui va favoriser l'emploi. Aujourd'hui, on nous dit on fait une loi sur la SNCF pour permettre aux trains de partir à l'heure et arriver à l'heure. C'est complètement faux. C'est certainement pas le statut des cheminots qui va permettre aux trains de partir et d'arriver à l'heure. Non. Juste une chose sur l'Europe. L'Europe a bon dos. C'est-à-dire que oui, effectivement, l'Europe a ouvert la mise en concurrence des trains. Mais c'est faux de dire que c'est à cause de l'Europe aujourd'hui qu'on passe de l'EPIC, du statut d'établissement public, à un statut de société anonyme, ce qui est complètement différent dans la philosophie même des établissements. C'est-à-dire qu'on passe d'une entreprise publique à une entreprise qui a vocation à faire de la rentabilité. Aujourd'hui, un service public de transport, n'a pas vocation à être rentable.
L'Europe, en fait, on ouvre les lignes, en fait, voilà, à la concurrence.
À la concurrence,
c'est ça. Mathieu Aron.
Moi, je sens quand même qu'il y a une petite évolution dans l'attitude d'Emmanuel Macron et de son équipe. Parce que entre lundi et vendredi, il est un peu moins inflexible quand même. Je pense que tout Emmanuel Macron qu'il soit, il regarde ce qui se passe. Il y a quand même une grève à la SNCF qui est très dure. Il y a la grève à Air France qui va s'amplifier. Il y a des mouvements dans le secteur hospitalier. Il y a aussi des étudiants qui...
Toujours délicat à gérer.
Donc, et à mon avis, la crainte du gouvernement, la crainte d'Emmanuel Macron, c'est que au-delà de ce qui se passe dans tel ou tel secteur, et à chaque fois, ce sont des mouvements de grève ou des contestations pour des motifs très différents, il y a quelque chose qui pourrait fédérer, c'est une contestation d'une forme d'arrogance du pouvoir qui veut imposer des choses et qui n'agit pas comme on avait cru le croire pendant la campagne avec bienveillance. Ça, c'est ce que Ruffin des Insoumis a bien compris. C'est pour ça qu'il appelle à faire à la fête.
C'est ça, on va en parler.
Je ne sais pas du tout si ce mouvement va prendre, mais je crois qu'il y a, en tout cas, le pouvoir regarde ça avec intérêt.
Quand même. Voilà, mais en effet, on est vraiment d'accord. Pour moi, il y a en effet une inflexion. Elle n'est pas spectaculaire, je vous l'accorde, mais il ne campe pas sur la même fermeté, la même arrogance. C'est vrai que ce refus de l'arrogance, du mépris, même disent certains, ça coagule, ça rassemble beaucoup des opposants, mais il n'y a pas que ça. Il y a également, et c'est pour ça que ce matin l'épisode était intéressant, parce que quand on regarde ceux qui étaient là pour le huer quand il est arrivé dans cet établissement à Rouen, ben il y avait justement des représentants de chacune de ces catégories. Il y avait des étudiants, il y avait du corps médical, il y avait de la SNCF, il y avait tout le monde. Alors bien sûr, il y avait un petit peu partout le drapeau rouge et jaune de la CGT, mais quand même ils étaient là différemment. Et quel est donc le deuxième point sur lequel ils essaient, selon la formule, la convergence des luttes, en tout cas de trouver une cohérence entre eux? C'est la défense du service public.
C'est
parce
ça.
Que là, à chaque fois, de quoi parle-t-on? Service public de l'éducation, de la santé, du transport, etc. Bien sûr, je suis d'accord, l'Europe, elle dit pas il faut faire 3 EPIC, etc. Enfin, 3 supprimer les EPIC, bien sûr que non. Mais en gros, l'Europe, elle montre une voie libérale dans ses grandes lignes.
Défense du service public contre cette idéologie du libéralisme. Donc, qu'incarne quand même Emmanuel Macron?
Il l'incarne pas totalement, il l'incarne à la française, parce qu'à la française, dès qu'il y a une petite dose de libéralisme,
on est un grand libéral. Mais malgré tout, on sait que la philosophie qui est la sienne est celle-ci. Donc, il ne tient pas suffisamment compte de ce que le peuple attend des politiques, de reconstruire du tissu social. Alors que là, tout ce qu'il fait travaille dans le sens contraire, continue à émietter la société.
Alors on va voir dans un instant justement du côté des opposants comment ça s'organise. On en a commencé à en parler dans un instant. L'info à 20h20, Édouard Marguier.
La ministre de l'Enseignement supérieur assure que les blocages dans les universités n'entraînera pas de problème pour l'organisation des examens. Frédéric Vidal l'a dit sur France Info tout à l'heure, des étudiants se mobilisent contre la réforme de l'accès à l'université. Montpellier, Toulouse et Paris 8 sont totalement bloqués, d'autres le sont partiellement. Emmanuel Macron s'est fait huer aujourd'hui lors d'un déplacement au CHU de Rouen. 300 manifestants l'attendaient. Le président ne leur a pas répondu, il était là pour dévoiler son plan autisme. 340 millions d'euros seront débloqués sur 5 ans pour que ces personnes aient la vie la plus normale possible. Par ailleurs, pour la première fois, Emmanuel Macron a évoqué la grève à la SNCF. Pour lui, ce sont des protestations légitimes qui ne doivent pas empêcher de gouverner. Après 2 jours de mouvement, justement, à la SNCF, une réunion a lieu au ministère des Transports en ce moment. Elle dure depuis 14h30. Les syndicats et la ministre Elisabeth Borne discutent dette, financement et statut du groupe ferroviaire. Toujours pas de fumée blanche en Italie, toujours pas de gouvernement. Le président Mattarella a annoncé qu'aucun accord de coalition n'a été trouvé après 2 jours de négociations. De nouvelles consultations auront lieu la semaine prochaine. Twitter s'y était engagé, il apporte des chiffres. Ce soir, le réseau social annonce avoir suspendu plus d'1 200 000 comptes qui faisaient la promotion du terrorisme entre le 1er août 2015 et le 31 décembre dernier.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors forcément, toute cette agitation sociale, ça en chatouille, hein, certains. Tous ceux qui avaient mis leur barricade derrière une vitrine, leur brasero dans leur jardin et les slogans dans leur tiroir se disent « Eh, mais si c'était le moment de ressortir tout cet attirail ?» Aujourd'hui, on a vu dans le même train, direction la Normandie, Pierre Laurent du PCF, Benoît Hamon et Olivier Besancenot, les troupes de la France Insoumise participent aux manifestations et même le Parti socialiste, oui, tente de s'accrocher au wagon. Hier, François Ruffin, on l'a dit, a lancé l'idée d'une grande manifestation anti-Macron pour le samedi 5 mai, afin de célébrer à sa manière le premier anniversaire de la victoire du candidat d'En Marche. Les différents mouvements sociaux peuvent-ils donc avoir une transformation politique? Alors déjà, les gars, hein, il faut se mettre d'accord sur une date. Pour le leader de la France insoumise, ce sera le 14 avril prochain à Marseille, Jean-Luc Mélenchon.
Ça tombe un week-end, vous savez que c'est ce que j'ai souhaité, moi, qu'on ait une occasion pour tout le monde de se retrouver un jour, où ça vous coûte pas une journée de paye, où vous pouvez venir, simplement, parce que des fois, on peut pas. Quand dans sa corporation, il n'y a pas un mot d'ordre de grève, c'est pas chacun fait ce qu'il veut, hein, dans ce pays. Hein. Voilà, donc je trouve que c'est assez extraordinaire. Ça prouve que c'est ici qu'est bien le cratère du volcan social français. Hein.
Voilà, Jean-Luc Mélenchon, quand il dit ici, c'est à Marseille-Pierre Jacquemin. Alors déjà, on voit deux dates différentes. Est-ce que ça recommence sur le même problème que la loi travail? On avait vu des manifestations différentes de Jean-Luc Mélenchon et des syndicats. Est-ce que ça va pas diviser?
Non, je pense qu'au contraire, c'est nécessaire d'essayer d'abord, parce qu'on voit bien qu'il y a des appels différents. Il y en a qui proposent des grèves perlées, d'autres qui proposent des grèves reconductibles, illimitées. Donc voilà, bon, chacun envoie son mouvement à midi à sa porte, ou en tout cas son mouvement à sa porte.
À sa porte.
Une chose est sûre, c'est qu'il y a une convergence qui est nécessaire, une convergence pas forcément dans les luttes, puisque celle-là, je pense qu'on l'attend depuis très très longtemps et elle n'est pas encore là. En revanche, comme le disait l'économiste Frédéric Lordon hier soir d'ailleurs,
à la Bourse du Travail,
l'initiative de François Ruffin, si le mouvement ne doit être que le mouvement des cheminots, ça ne prendra pas. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, la transformation du débat qui doit être posé dans l'opinion, dans l'espace public, c'est quels moyens on a aujourd'hui pour lutter contre la politique et le monde d'Emmanuel Macron. Donc c'est ça qui se joue aujourd'hui. La date du 5 mai est une date vers laquelle doivent converger les partenaires sociaux, les syndicats, les intellectuels, les citoyens, les politiques, pour que ce monde-là se rassemble et effectivement fasse pression, ou en tout cas crée le rapport de force avec le gouvernement d'Emmanuel Macron.
Mathieu Aron, alors est-ce que justement là on voit manifestation anti-Macron? C'est-à-dire que il faut qu'elle lise tout aujourd'hui, Emmanuel Macron, comme le Premier ministre a du mal à exister, même médiatiquement, c'est-à-dire c'est vraiment contre le président de la République aujourd'hui?
Ça dépend, mais ça pourrait le devenir en tout cas. Je crois que à la SNCF, on défend d'abord un statut, c'est une évidence. À Air France, c'est encore autre chose. Chez les étudiants, c'est plus compliqué, parce que quand Édouard Philippe ce matin sur France Inter disait il y a quand même beaucoup de politique dans ce mouvement étudiant, je suis assez d'accord avec lui, parce que toutes les enquêtes, toutes les études qui ont été faites dans les mois qui précédaient montraient que les étudiants étaient prêts à changer de culture sur ces questions d'entrée à l'université, que le terme de sélection n'était plus un tabou, et ça semblait passer assez simplement, vraiment pour une majorité d'étudiants. Or, soudain, on voit ce mouvement qui s'allume. Là, le grand risque aujourd'hui pour ce pouvoir, c'est que un mouvement de grève avec la SNCF, ça se gère. Alors, on peut peut-être terminé en short, mais on finit toujours par l'arrêter et par le gérer. C'est vrai pour des conflits classiques. Dès que des jeunes sortent dans la rue, dès que des facs sont bloqués, dès qu'éventuellement des lycéens s'y mettent, ça devient un peu plus compliqué, voire beaucoup plus compliqué à gérer. Et là, ça deviendra totalement politique. Je crois que c'est là, c'est ce qui inquiète surtout, ça, effectivement, ouais. Emmanuel Macron et le gouvernement aujourd'hui.
Oui, Pierre Jacquemin, non?
Oui, je suis d'accord. C'est d'ailleurs l'enjeu qui se joue là maintenant tout de suite. C'est faire en sorte que l'ensemble des gens qui sont mobilisés, que ce soit dans le secteur privé, public, les jeunes, les étudiants, se mobilisent contre le monde d'Emmanuel Macron. C'est plus seulement la question des cheminots, c'est ce que je disais il y a un instant, c'est que l'enjeu, il n'est pas une lutte sectorielle, il est une lutte, une convergence, et il est aussi sur une chose, et c'est là où la gauche a une responsabilité, je finis juste là-dessus, c'est à un moment donné, les gens ne se mobilisent que s'il y a une perspective, s'il y a une alternative. Et c'est là aujourd'hui l'image qui était celle de Pierre Laurent, de Benoît Hamon, de Jean-Luc Mélenchon, c'était pas Jean-Luc Mélenchon, c'était Éric Coquerel, je crois. C'est là où c'est important, c'est que les syndicats, c'est ce qu'ils disent aussi aux politiques. On vous veut derrière nous dans les manifestations au moment des grèves, mais on veut aussi que vous soyez en capacité de traduire les aspirations populaires. Oui, et c'est ça qui manque aujourd'hui.
Alors juste une chose, Bernice Levet, vous pensez justement cette mobilisation aujourd'hui qui peut prendre? Alors surtout, le problème, c'est que quand on voit aussi l'association de ces gens-là, ce sont des gens qui ont perdu la présidentielle, qui n'ont pas eu aussi tous les suffrages de la part des Français.
Oui, mais en même temps, on sait qu'il n'y a quand même qu'un quart des Français qui ont porté au pouvoir Emmanuel Macron. Hein, donc,
Après, il y a eu Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon.
Et oui, mais donc ça, c'est bien des forces d'opposition qui effectivement, bon, dans l'absence de traduction politique, les électeurs de Marine Le Pen sont en déshérence, mais bon.
Je vois pas tellement Bruno Retailleau aller manifester, je sais pas pourquoi,
non,
je le sens pas trop
ça,
là-dessus.
Non, par contre, ce que je voulais dire suite à la remarque de Mathieu Aron, c'est le rôle de la jeunesse, parce que la France insoumise, c'est sur la jeunesse qu'elle peut avoir une influence très grande. Parce que, effectivement, là pour le coup, c'est un mouvement politique qui n'a pas de véritable fondement. d'opposition à la, ils prennent comme prétexte la prétendue sélection. Or, effectivement, la sélection, elle est nécessaire, ou en tout cas, on est obligé de mettre en place un autre système. Donc, je crois que là, la jeunesse est la plus poreuse, en définitive, au discours d'un Frédéric Lordon, notamment.
Alors, juste pour expliquer, parce que Frédéric Lordon, ce n'est pas le plus connu non plus, hein, c'est notamment un économiste, c'est un philosophe aussi, et c'était lui aussi qui était un des idéologues de Nuit Debout. Voilà. On va revenir dans un instant justement sur cette mobilisation politique. On va parler également proportionnelle aussi de tous ces gens qui quittent la politique. Ça n'arrête plus, parce que vous savez que Cécile Duflot, ça y est, a quitté la vie politique pour aller diriger une ONG. On parle de tout ça dans un instant dans les informés de France Info.
Je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on trouve des tutos pour tout. Des tutos pour faire les devoirs aux enfants sous hypnose, pour dompter un poisson rouge, pour tricoter un bonnet de bain. Mais alors si je pouvais trouver LE tuto pour profiter de plein de gigas à moindre prix, là, ça serait vraiment utile.
Ne cherchez plus. Chez SFR jusqu'au 9 avril, le forfait Power 50 gigas est à seulement 10 euros par mois pendant un an, puis 24 euros. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine, réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box, engagement 12 mois.
Vous avez un boulot, vous voulez en changer, vous en cherchez un. Numérique, intelligence artificielle, robots, les grandes mutations du travail vous intéressent? Venez échanger et écouter les meilleurs témoignages au cours d'une soirée exceptionnelle de France Info. C'est mon boulot, les nouvelles clés pour réussir avec Le Parisien aujourd'hui en France. Mardi 10 avril à 19h30 à la Maison de la Radio à Paris. Infos et réservations sur maisondelaradio.fr.
Avec Manpower, trouvez votre emploi en CDI. Rendez-vous sur manpower.fr. France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable, récoltés à la main par les petits producteurs dans le respect de la biodiversité. À retrouver sur malongo.com.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Une belle journée demain, le soleil tant attendu sera au rendez-vous. Il sera parfois contrarié par la grisaille le matin vers les côtes de la Méditerranée ou dans certaines vallées. Il faudra également composer avec le vent dans le sud jusqu'à 70 km à l'heure, 90 même pour le vent d'autan. Sur le nord-ouest et au pied des Pyrénées, ce sera parfois voilé. Quelques ondées pourront se déclencher en fin de journée sur le relief, mais aussi sur la Bretagne, prémisse d'une nouvelle perturbation pour le week-end. Il fera frais le matin, souvent 0 à 5 degrés, plus près des côtes. L'après-midi, de la douceur avec 15 à 22 degrés, 17 à Amiens, Metz, Nice, 20 à Paris, 22 à Bourges. On ira jusqu'à 24 degrés dans le sud-ouest, à Bordeaux ou à Tarbes par exemple.
Avec meilleurtaux.com, comparez les assurances auto. Économisez 335 euros en moyenne et bénéficiez d'un mois offert, quel que soit l'assureur. Conditions sur meilleurtaux.com, courtier inscrit à l'Orias.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Hugo Charpentier, bonsoir.
Bonsoir, c'est dans une salle comble que le procès de 5 hommes s'est ouvert cet après-midi au tribunal correctionnel de Paris. Tous sont poursuivis pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Des prévenus qui ont un point commun, ils sont originaires de Lunel, cette petite ville de l'Hérault qui avait vu une vingtaine de ces jeunes partir pour le djihad en Syrie. C'était entre 2013 et 2014, Delphine Gocho.
Ils ont entre 30 et 48 ans et au moment de leur interpellation en janvier 2015, trois semaines à peine après les attentats de Paris, ils vivaient tous à Lunel ou dans ses environs. Deux sont allés en Syrie quelques semaines, dont le plus âgé, un père de famille avec ses deux fillettes de 8 et 10 ans, ce qu'il a toujours contesté pendant l'instruction. Il assure être resté en Turquie pour rejoindre sa femme de nationalité turque. Sur ces cinq hommes, trois sont en détention provisoire, dont Hamza, 30 ans. Ses deux frères sont morts en Syrie. Il est soupçonné par la justice d'avoir joué un rôle crucial dans le recrutement, la propagande et l'aide logistique au départ. Les deux derniers prévenus comparaissent libres sous contrôle judiciaire et c'est Saad, trentenaire également, qui est d'abord interrogé par la présidente. Son frère est le premier lunellois à être parti en Syrie. Cheveux gominés, barbe rasée de près, il explique qu'il est un musulman non pratiquant, qu'il n'a jamais voulu partir en Syrie, qu'il essayait de faire rentrer son frère, qu'il aurait, dit-il, préféré le voir en prison en France que mort et enterré je ne sais pas où. À lui, la justice reproche d'avoir donné 190 euros à sa belle-sœur et d'être allé la chercher à l'aéroport de Marseille à son retour de Syrie. Pour cela, il est mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes et il encourt, comme les quatre autres prévenus, jusqu'à 10 ans de prison.
Delphine Gocho pour France Info. Que peut-il ressortir de cette nouvelle concertation? Syndicats de cheminots et gouvernement négocient depuis le début de l'après-midi au ministère des Transports. Au menu de ces discussions qui se déroulent dans un climat tendu, l'ouverture à la concurrence ainsi que la question de la dette de la SNCF. Demain, une autre réunion au ministère se penchera cette fois-ci sur des droits sociaux des cheminots. La grève, elle, doit reprendre dès samedi 20h pour deux jours à nouveau jusqu'à 8h mardi matin. Un peu moins d'une semaine après la grève historique des salariés de Carrefour pour la sauvegarde de l'emploi et de leur pouvoir d'achat, la direction du géant de la distribution propose pour chaque salarié à temps complet un bon d'achat de 150 euros. Tout ça pour ça, réaction de Philippe Allard, le délégué CGT Carrefour. Son syndicat a d'ores et déjà appelé les salariés à manifester le 13 avril prochain, ainsi que les week-ends des 1er et 8 mai. Et puis, quart de finale de la retour de la Ligue Europa. Et à 21h05, l'Olympique de Marseille se déplace chez les Allemands du RB Leipzig. Match à suivre sur France Info. 20h33 sur France Info, la suite des informés. Jean-Mathieu Pernat.
Les informés, Jean-Mathieu Pernat.
Les informés de France Info. Et oui, ça discute pendant ce temps-là jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT, alors que des députés de la majorité ont déposé un amendement afin de rendre obligatoire les doggy bags dans les restaurants. Eux, ils ont opté pour le doggy news, en fait, hein, ils emportent l'actualité partout. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent la philosophe et essayiste Bérénice Levé, Henri Vernet du Parisien aujourd'hui en France, Mathieu Aron de l'Obs et Pierre Jacquemin, rédacteur en chef de la revue Regard. On va revenir justement sur la mobilisation des opposants à Emmanuel Macron. Certains souhaitent surfer justement sur ces différentes grognes aujourd'hui qui commencent à faire beaucoup, une sorte d'empilement, on va dire, des luttes. Hein. Alors hier, François Ruffin, député de la France Insoumise, a lui lancé une date. Ce serait le 5 mai. Le 5 mai, pourquoi ? Car c'est deux jours avant le premier anniversaire de la victoire d'Emmanuel Macron. Mais son chef, on va dire ça, de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, lui préfère eh bien, réunir tout le monde dans sa circonscription à Marseille le 14 avril, donc deux mobilisations. Henri Vernet, ça rappelle des choses qu'il y ait deux mobilisations comme ça, non ?
Bah oui, bien sûr, ça rappelle le fait tout simplement que Jean-Luc Mélenchon, on sait, il est toujours là pour essayer de récupérer, de surfer sur les mécontentements, sur les luttes. Ça a été le cas pour les ordonnances sur la loi travail. Ça a été le cas plus récemment, on l'a vu encore dans le défilé l'autre jour où il s'est fait un petit peu écarter et jeter de ce défilé. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe, c'est que Jean-Luc Mélenchon, il a tellement tendance à phagocyter les oppositions que bien évidemment, les autres forces de gauche ne tiennent pas spécialement à se ranger sous sa bannière. Mmh. Aujourd'hui, c'est vrai que depuis plusieurs mois, depuis cette mandature, en l'occurrence, l'opposition, c'est Jean-Luc Mélenchon.
Mais est-ce que c'est pas bizarre que ce soit un député France Insoumise qui soit différent de son chef ?
Bien sûr, c'est ça qui est un petit peu embêtant. Et on voit, c'est pas contradictoire. Dans la mesure où, en revanche, François Ruffin, lui, aurait moins de mal, j'allais dire, à rassembler d'autres. On le voit d'ailleurs aujourd'hui avec Besancenot, avec d'autres personnalités de gauche. Il est plus rassembleur en quelque sorte.
Jean-Luc Mélenchon et François Ruffin, ils ont deux histoires politiques totalement différentes. D'abord, l'histoire politique de François Ruffin est beaucoup plus récente, avec des formes de mobilisation qui sont totalement innovantes, nouvelles, participatives, plus citoyennes. Donc, il y a deux formes d'innovation en politique. Il y a celle de Mélenchon qui est plutôt traditionnelle, la manifestation, celle qu'il va proposer. Et voilà, les deux manifestations sont nécessaires.
Juste pour les auditeurs qui, sur François Ruffin, vous le connaissez aussi, François Ruffin, car il a réalisé un film qui s'appelle Merci Patron, qui a eu un César, d'ailleurs, le César du meilleur documentaire.
Et il a été un des principaux artisans, ou en tout cas, des principaux acteurs de Nuit debout. Voilà, donc c'est des formes nouvelles qui ont émergé dans notre territoire, notre pays. Il est toujours dans cette volonté d'innover pour capter toujours plus l'attention du plus grand nombre et surtout pour donner la parole au plus grand nombre. Donc les deux manifestations n'ont rien d'entre
nous. Elles
sont complémentaires. Et d'ailleurs, ça doit faire monter la première manifestation qui est pas organisée, mais qu'en tout cas qui est à l'appel de Jean-Luc Mélenchon, doit faire monter un peu la sauce, pour une plus large mobilisation le 5 mai.
Mathieu Aron.
Oui, alors Mélenchon est quand même le patron des insoumis. Qu'un autre insoumis donne une autre date, moi je crois que c'est pas lié à un hasard et je ne pense pas que ce soit coordonné. Je pense qu'en réalité, comme on l'a vu depuis quelques mois et ces dernières semaines, et puis il y a eu des propos de l'un contre l'autre qui ont été sortis, que effectivement Jean-Luc Mélenchon et Ruffin ne s'entendent pas sur tout. Ils ont des divergences assez profondes même, et le fait que Monsieur Ruffin s'affiche avec Lordon, l'économiste. C'est quand même un signe particulier. On va vers quelque chose qui est assez radical. L'autre jour, hier matin, si je ne dis pas de bêtises, Besancenot disait qu'il était pour un processus révolutionnaire à l'occasion de ces manifestations. On s'en rapproche avec Monsieur Lordon. Donc effectivement, il y a deux styles différents, deux approches différentes et deux manières de contester très différentes, je crois.
Il y avait la plupart des députés députés de la France Insoumise qui étaient présents hier.
Donc, la Bourse du Travail.
Voilà, l'initiative de François Ruffin, encore une fois, elle part d'une démarche pas personnelle, qui est une démarche d'innovation politique. Il y avait Alexis Corbière, il y avait le jeune député Adrien Quatennens du Nord qui était présent à la Bourse du Travail. Ça n'est pas, il y en a, encore une fois, sans doute, il y a des manières de faire la politique qui sont totalement différentes de Mélenchon à Ruffin, mais c'est, tout ça doit converger vers un objectif commun qui est celui de la mobilisation la plus large.
Juste une chose, Bernice Levet, juste pour avancer un petit peu, on voit, il y a eu 2 jours de grève qui ont été très suivis, mais une chose intéressante, c'est quand on parle ici, nous avions un représentant de Sudrail l'autre fois, il expliquait véritablement, nous, dans nos manifestations, ce sont des manifestations syndicales, on ne veut pas de politique. Est-ce que c'est pas toujours la même complexité de, est-ce que c'est possible ensuite de réunir tout ce monde-là ensemble en sachant que chacun défend, voilà, aussi son précaré, chacun défend aussi sa lutte, quoi.
Oui.
Est-ce que les politiques et syndicats peuvent manifester ensemble?
Je ne sais pas, mais de toute façon, là, c'est pas nécessairement un appel aux syndicats pour le 5 mai. C'est d'abord
un véritablement pour que tout le monde puisse
voilà réellement un mouvement qui coaliserait la population. Mais non, ce qui me semble plus intéressant, c'est que l'alliance Ruffin-Lordon en dit quand même long sur la volonté d'une certaine radicalisation de la politique.
Est-ce que Nuit debout c'était si radical? Enfin voilà, on l'a vu.
Mais que Besancenot s'ajoute à ces mouvements. Il y a quand même une grande immaturité politique
Nuit debout n'a pas été radical dans son mode d'action, pas du tout, puisque c'était se retrouver sur une place et sur plusieurs places et discuter et débattre. Donc ce n'était absolument pas un mode de contestation radicale. En revanche, les participants à Nuit debout, dans leur expression et dans les modes de solution qu'ils proposent, on peut les qualifier d'assez radical ou d'assez révolutionnaire.
Au motif d'instaurer le débat, étaient quand même exclus tous ceux qui pensaient différemment.
Un petit point d'histoire, je sais que vous connaissez bien la politique. En 1995, lorsqu'il y a eu des grandes grèves comme ça, est-ce qu'il y avait eu un débouché politique de ça ou pas? Est-ce que ça avait
Il y en a eu un deux ans plus tard.
Mais c'était pas de la cause.
C'est vrai que c'était un mouvement. Alors, il faut dire aussi que le contexte était différent. Il y avait un petit peu moins de chômage. Il y avait une croissance qui revenait un petit peu. Donc, je veux dire qu'il restait quand même le côté grève par procuration qui avait beaucoup marché. C'est-à-dire que l'essentiel là-bas, bien sûr, il y avait les transports, mais il y avait aussi la sécurité sociale. Et donc, le fait que toutes ces catégories se soient mobilisées pour la défense de la Sécu, ça a été pris par les salariés du privé comme comme ce qu'on avait appelé à l'époque la grève par procuration. Aujourd'hui, on ne voit pas ça. Donc, la tentation politique autour du mouvement récupéré par Ruffin, etc., aujourd'hui me paraît plus importante, ça, oui.
Non, mais en même temps, il y a cette volonté quand même d'action parce qu'il y a un véritable éteignoir qui est posé sur la vie politique par Emmanuel Macron. Donc, les forces vives de la politique aient envie de se mobiliser, là, il n'y a rien de plus légitime. En plus, l'Assemblée nationale n'est pas même le lieu d'un véritable dialogue. Il faut bien que ça se déroule quelque part.
Allez, dans un instant, on va parler constitution et aussi de ceux qui s'en vont. Voilà, c'est un peu poétique. L'info à 20h40, Édouard Marguier.
La police a encore des questions à poser à Jean-Vincent Placé. Sa garde à vue a été prolongée par le parquet de Paris. L'ancien secrétaire d'État a été interpellé la nuit dernière dans la capitale en état d'ivresse, soupçonné d'avoir importuné une jeune femme et d'avoir insulté un videur et des policiers. Le sénateur qui se trouvait avec lui a demandé à être entendu par les enquêteurs cet après-midi. Les syndicats de la SNCF et la ministre des Transports se parlent et ça dure depuis 14h30, réunion au ministère. Après les 2 premiers jours du mouvement des cheminots contre la réforme ferroviaire, le prochain jour de grève est censé avoir lieu dimanche. Un violent incendie dans un hôpital d'Istanbul. Les patients ont dû être évacués à la hâte par le personnel. La façade du bâtiment située sur la rive européenne de la ville turque a été ravagée en quelques minutes. Le feu est en passe d'être contrôlé. Les autorités ne déplorent pour le moment aucune victime. La filière djihadiste de Lunel est face à la justice. 5 hommes sont jugés par le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. En 2013, une vingtaine de jeunes de cette ville de l'Hérault sont partis rejoindre les rangs d'Al-Qaïda, puis ceux du groupe État islamique. Marseille est notre dernière chance en Coupe d'Europe de football. L'OM joue son quart de finale aller de la Ligue Europa ce soir à Leipzig en Allemagne. Coup d'envoi dans 20 minutes. Les 3 autres quarts de finale se joueront en même temps.
France Info.
20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, alors que certains n'hésitent pas à dire « oh c'est trop », d'autres « oh ben non c'est pas assez », le président et le Premier ministre sont contents puisque c'est ni trop ni pas assez, donc parfait quoi. En révélant hier le contenu de la réforme de la Constitution, certains parlementaires ont eu une petite goutte de sueur leur glissant dans le dos en apprenant que 30% d'entre eux ne seraient pas reconduits. Voilà, c'est un vrai film d'angoisse, puisque forcément, qui d'entre nous, voilà, autour de cette table, ont dû se dire dans les commissions, les députés, ne sera plus là, eh bien, en 2022, peut-être que ça sera toi ou ça sera moi. Un vrai film d'angoisse, puisqu'on ne sait pas encore, on ne sait pas qui encore. Mais le plus polémique vient de ces 15% de députés élus à la proportionnelle. Certains en voulaient plus, d'autres pas du tout. Mais à quoi cela va vraiment servir? En tout cas, ça met en colère le député des Alpes-Maritimes, Les Républicains, Éric Ciotti.
Ça présente des risques pour la Ve République. Très clairement, introduire la proportionnelle, le poison de la proportionnelle dans notre système institutionnel, c'est faire prendre des risques pour l'équilibre de nos institutions.
Même à 15%?
Même à 15%, puisque les majorités ne pourront pas, de façon certaine, être garanties. Aujourd'hui, il y a une majorité, il y a une opposition qui permet au gouvernement de conduire sa politique. On voit ce qui se passe en Italie. En Allemagne, aller dans ce sens est dangereux. Et pour nous, nous le disons très clairement autour de Laurent Wauquiez, c'est non.
Valérie Ciotti, donc député Les Républicains ce matin sur France 2. Mathieu Aron, c'est utile d'ailleurs? Alors, que 15%, parce qu'on n'est pas comme en Italie, justement, où c'est intégral. Est-ce que c'est utile que 15% proportionnel?
Il faudrait essayer d'anticiper ce que 15% peut vouloir dire lors des prochaines élections. Alors, on peut partir des élections passées, c'est une façon de faire. Ça. Il y avait un assez bon papier que j'ai lu tout à l'heure dans Le Monde qui donnait des chiffres qui étaient intéressants, qui montraient que si on reprenait les résultats au premier tour des législatives, alors je parle de mémoire, j'espère ne pas dire de bêtises, où le bloc La République En Marche et le MoDem avaient fait 32% des voix au premier tour, ça aboutit à 60% des sièges. Si on met le correctif des 15% de proportionnel, on n'est plus à 60%, on est autour de 55-56%. On voit que c'est donc un correctif au système qui existe aujourd'hui, mais que ça ne le change pas fondamentalement. Et je ne suis pas tout à fait de l'avis de M. Ciotti.
Oui, parce que lui, il dit carrément que ça change quelque chose. Bérine Sauvé, pour vous, c'est important ou pas?
Ça me semble important que soient véritablement représentés des candidats qui correspondent à quelque chose de réel.
Vous pensez que 15%, alors justement, ça suffit ou pas? Par exemple, François Bayrou, lui, dit « moi, j'en veux plus ».
Je pense que c'est peu, mais bon, c'est un premier pas. Et en même temps, on est obligé quand même de tenir compte de l'objection d'Éric Ciotti, c'est-à-dire de ne pas non plus trop fragiliser la force du gouvernement et sa capacité de conduire une politique. Donc là, j'ai pas la compétence justement pour savoir à partir de quel pourcentage
on met
en péril.
Mais c'est quand même un pas.
C'est un pas même nécessaire.
Oui, Pierre Jacquemin, pour vous, il y a une question qu'on se pose, c'est vrai, depuis quelques années maintenant, mine de rien, et ça s'est vraiment matérialisé lors des dernières législatives, c'est l'abstention. Mm-hmm. L'abstention, oui. Aux dernières législatives, elle a fait 57%, donc c'était un record pour des législatives. Est-ce que ce genre d'initiative, ça peut rapprocher justement pour vous, le citoyen et le politique, de combattre cette...
Je vais répondre évidemment à la question, mais juste, je me permets de noter quand même un élément de méthode du gouvernement. On s'aperçoit quand même que depuis le début du quinquennat, il y a une réforme qui est lancée, on en discute et hop, au moment où se cristallise la tension sur le projet, on passe à une autre réforme. Ça a été le cas avec la loi Asile Immigration, on a commencé à en parler, hop, on a lancé la loi SNCF, hop, aujourd'hui la loi SNCF, on est en plein débat, on lance ce projet de loi, ou en tout cas les grandes lignes de ce projet de loi, alors qu'on sait que c'est en 2019 que ce sera probablement voté soit par référendum, soit par là.
Alors voté et mis en action
donc,
en 2022.
Tout ça pour dire quand même que voilà, le gouvernement essaie de noyer les débats pour éviter le dialogue, encore une fois, je le crois, et pour répondre évidemment à votre question, je ne sais pas si ça va empêcher l'abstention. Ce que je crois, c'est que à partir du moment où il fait une proposition aussi faible et aussi peu significative, parce que ça ne va vraiment pas chambouler les grands clivages ou en tout cas les grands équilibres aujourd'hui de notre Assemblée, je crois que le gouvernement, compte tenu du fait qu'Emmanuel Macron nous avait promis la révolution avec son livre au moment de la présidentielle, ne fait pas la révolution. Or, aujourd'hui, on arrive dans un système institutionnel totalement essoufflé, une Ve République totalement essoufflée, où il faudrait aller beaucoup plus loin justement sur la question de la proportionnelle, et y compris sur comment on fait en sorte justement de tenir compte de ces abstentionnistes, comment on fait en sorte que les électeurs de la Seine-Saint-Denis ou les grands électeurs, les électeurs du Nord-Pas-de-Calais, par exemple, aille aux urnes. C'est bien là le problème aujourd'hui. Mmh. Et ça ne va pas, cette proposition qui est là aujourd'hui sur la table ne va certainement
vous
pas...
Vous ne pensez pas que ça peut aider, voilà.
Mais non, ça va, mais non, pas du tout. Non. Par ailleurs, je pense qu'il prend un risque politique majeur, même si les choses sont encore aujourd'hui sur la table et que ça sera discuté. C'est que, personne n'est vraiment très, très en accord avec cette proposition-là aujourd'hui.
Non, mais vous savez, après, on s'arrange. Il y a toujours des découpages de cartes électorales, quel que soit le gouvernement. Hein,
ça, on l'a vu, du côté du président du Sénat, il pouvait y avoir des discussions possibles pour que les accords soient.
Il faudra beaucoup surveiller, en effet.
Henri Vernet, voilà la phrase d'Edouard Philippe. On ne passe pas en 6e République, mais on ne revient pas à la 4e, on reste bien en 5e, on la
non,
conforte.
Non, parce qu'on l'a assez dit, là, le dosage, c'est vrai qu'en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura 60 députés, plus ou moins, qui seront issus de ce système-là, sur un nombre plus réduit de députés, et Mathieu Aron l'a dit, c'est vrai que les projections qui ont été faites, en gros, ça montre que le seul groupe pour qui ça aurait été vraiment significatif, c'est le Front National.
Ça serait passé à 14,
voilà,
en fait.
Qui aurait été conforté, sachant que c'est sur un total, encore une fois, bien réduit de députés, puisqu'il y en aurait 400 au total, contre 577 aujourd'hui. Donc non, ça rompt pas fondamentalement les équilibres. C'est vrai que c'est pas dans l'esprit de la 5e, hein, clairement, mais comme ne l'était pas l'élection aux législatives de 1986, qui était, on s'en souvient, c'était réellement une manœuvre de François Mitterrand, proportionnelle intégrale, c'était une manœuvre tout simplement pour que le triomphe de la droite attendue à ce moment-là, donc la première cohabitation, ne soit pas massif. Ça a marché, puisqu'il a pu se faire réélire en 88. Mais c'est quand même une ouverture qui est assez intéressante. Par rapport à l'abstention, moi, je veux bien ce que vous dites sur Seine-Saint-Denis ou d'autres endroits d'ailleurs, mais comment faut-il faire alors pour que les gens aillent voter? Parce que l'offre politique, malgré tout, on voit quand même que elle est assez diverse, elle se renouvelle. Alors à part le vote obligatoire, qui lui non plus n'est pas très probant, alors pourquoi est-ce que quand même ça peut inciter? Parce que justement, des gens qui jusqu'ici, du fait du scrutin majoritaire, se trouvent insuffisamment représentés, là le seront un peu plus, y compris d'ailleurs les insoumis.
Il faut ajouter que quand même à la proposition des 15% de la proportionnelle, il y a une volonté de réduire, vous l'avez dit d'ailleurs, de réduire drastiquement d'un tiers quasiment le nombre de députés. Donc ça veut dire que l'éloignement en plus des députés de leur population va considérablement augmenter le désintérêt pour cette élection, l'élection législative. Donc au contraire, aujourd'hui, une volonté politique devrait être de renforcer le pouvoir des citoyens, leur contrôle de leurs élus, leur contrôle, le contrôle de ceux qui les représentent. Et c'est bien le problème aujourd'hui, c'est que ceux qui les représentent à l'Assemblée nationale, on a beau avoir aujourd'hui une diversité, un rajeunissement, une féminisation de l'Assemblée nationale, les catégories sociales professionnelles qui sont, je crois, à 70% de cadres aujourd'hui à l'Assemblée nationale ne représentent pas ceux qui ne votent pas aujourd'hui aux élections.
Bérénice Levé.
Je pense quand même que la tenue politique tient davantage à l'absence de véritables propositions.
Vous dites qu'il n'y a pas de programme, en fait, c'est ça?
Mais il n'y a pas de candidat qui donne une véritable traduction aux aspirations du peuple. Alors, effectivement,
tout le monde se dit du peuple, donc c'est pour ça aussi.
Oui, mais...
On nous l'a dit pendant la campagne l'année dernière, je suis proche du peuple.
Bien sûr, mais que ce soit Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, elles ont traduit les forces quand même qui travaillent le plus profondément la France. Et là, il y a un déficit politique, en tout cas du côté du Front National.
À gauche, on peut reprocher plein de choses à la gauche, et je pense notamment à Mélenchon ou même Benoît Hamon. La 6e République, c'est pas vide de sens. C'est quand même beaucoup de propositions, et justement, qui reposent sur la participation des citoyens à la politique.
Le problème de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise, c'est qu'ils ne veulent pas entendre l'aspiration à un certain conservatisme. Ils servent juste la radicalité politique. Quand on voit, il y avait un entretien sur le Vox, sur le Figaro Vox, avec, alors je vais mal prononcer son nom, mais Herreron, qui est le cofondateur de Podemos. Oui. Et lui, il montrait bien qu'il était à la fois un militant du progrès social et du conservatisme, ce que j'appelle le droit des peuples à la continuité historique. En France, nous n'avons pas cette traduction politique.
Alors, on va continuer à en parler dans un instant, et même de ceux qui quittent aussi cette politique, parce qu'ils en ont un petit marre aussi. L'info à 20h50, et Edouard Marguier.
Carles Puigdemont sera remis en liberté en Allemagne sous contrôle judiciaire. Le tribunal du Schleswig-Holstein a estimé que l'extradition de l'ancien président catalan vers l'Espagne ne pouvait pas se faire sous le motif de la rébellion, comme le demande Madrid. Pour le juge allemand, seul le détournement de fonds publics peut être retenu. La réunion sur la SNCF s'éternise en ce moment. Autour de la table depuis 14h30, la ministre des Transports Elisabeth Borne et les organisations syndicales. Il est évidemment question de la réforme ferroviaire qui a déclenché la grève. La CGT cheminée Minot a dénoncé la rigidification du dialogue côté gouvernement. Le Premier ministre Édouard Philippe a dit ce matin sur France Inter être ouvert à la discussion, mais pas n'importe comment. Le Conseil d'État examinera le recours de Mathieu Gallet d'ici plusieurs semaines, l'institution l'a dit à France Info. L'ancien patron de Radio France conteste son éviction par le CSA. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel avait révoqué Mathieu Gallet après sa condamnation pour favoritisme lorsqu'il dirigeait l'INA entre 2010 et 2014. L'intéressé a fait appel de cette condamnation. La fille de Sergueï Skripal s'exprime un mois après son empoisonnement. « Je me sens de mieux en mieux chaque jour », dit-elle. Son père, l'ancien agent secret russe, est toujours dans un état critique mais stable. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se penche justement sur cette affaire aujourd'hui à la demande de la Russie. Dans ce dossier, Londres et Moscou s'accusent mutuellement. Un film d'un réalisateur iranien tourné en espagnol pour ouvrir le Festival de Cannes le mois prochain. Il s'agit d'Everybody Knows d'Ashgar Faradi avec Penélope Cruz et Javier Bardem. Le long métrage sera aussi en compétition pour la Palme d'Or. Par ailleurs, les cérémonies d'ouverture et de clôture seront présentées par l'acteur Edouard Baird.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, encore un mot de politique pour terminer cette émission avec ceux qui la quittent, voilà, et qui ne chanteront plus. C'est un beau roman d'amitié qui commence avec la vie militante, puisque aujourd'hui, dans les colonnes du Monde, l'ex-ministre et dirigeante des Verts, Cécile Duflot, a décidé de se mettre en retrait pour prendre la tête de l'ONG Oxfam France. Alors, est-ce que elle avait un peu de mal à trouver sa place aussi, Pierre-Jacquemin?
Bon, je sais pas. D'abord, il faut rendre hommage à Cécile Duflot. Elle a quand même fait beaucoup de choses. Elle a fait progresser son parti. C'est elle qui avait négocié, il faut rappeler qu'elle avait quand même négocié l'entrée des députés écologistes qui avait fait qu'ils avaient un des plus gros groupes à l'Assemblée nationale lors de la précédente législature. Par ailleurs, elle ne quitte pas vraiment la politique. Enfin, moi, c'est mon sentiment. Elle va vers une nouvelle forme d'engagement où elle va mettre à profit ses convictions, son engagement sur les plus de solidarité, sur la question de la pauvreté, sur la question de l'écologie, dans une nouvelle organisation. Mais elle va continuer à faire de la politique. Et puis, par ailleurs, on en a entendu des gens qui ont dit qu'ils se retiraient de la politique.
Mais on sent qu'il y a une tendance de fond quand même aujourd'hui, hein, chez certains. Il y a des têtes d'affiche, par exemple, on voit Najat Vallaud-Belkacem, François Fillon, Marion Maréchal Le Pen ou Arnaud Montebourg. C'est vrai, Mathieu Aron, est-ce que vous avez l'impression qu'à un moment, il y a des gens comme ça aussi d'une certaine génération hein, qui disent il n'y a pas que la politique aussi dans la vie, on peut faire autre chose?
Oui, puis il y a des gens qui ont perdu les élections. Il faut reconnaître que c'est d'abord ça la principale raison, puisque quand on les gagne, a priori, j'ai pas beaucoup le souvenir de quelqu'un qui ait gagné une élection et qui ait dit bon, finalement la politique.
Non,
ça
mais certains ont perdu et repris le parti derrière, vous voyez.
C'est tout à fait. Mais bon, là, on est avec une classe politique, des gens assez jeunes, oui. Que vous avez cité, Najat Vallaud-Belkacem, effectivement Arnaud Montebourg, Cécile Duflot, des gens qui ont envie de s'investir, mais NKM, qui à cet âge-là se disent bon, on va peut-être pas passer 5 ans, peut-être 10 ans dans un rôle d'opposant sans avoir la possibilité d'agir véritablement. Ouais, voilà, Cécile Duflot, moi aussi, je trouve que c'est quelqu'un qui est une femme de conviction, qui, aux places où elle a été, je pense au logement où elle a été beaucoup décriée, mais en même temps, elle a fait des réformes que je trouve être intéressantes et elle continue son engagement dans cette association.
Je pense que c'est assez révélateur, en effet, du déplacement du pouvoir. C'est qu'il n'est plus dans la sphère politique, mais que pour véritablement agir, pour avoir une influence, eh bien, on investit d'autres domaines d'activité. Oui, je crois que c'est très, très révélateur de ce que finalement, parce que en dépit de tout, les décisions politiques sont de plus en plus dictées par l'Europe, et donc autant agir à un autre niveau.
Henri
Garnet. La sphère proprement
politique. Je trouve ça intéressant parce que tous les noms qu'on a cités, ce sont des purs politiques. C'est-à-dire, alors Cécile Duflot a fait beaucoup de militantisme. Hein, elle est arrivée de cette manière-là. Et donc finalement, c'est le constat. Ben oui, en effet, ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'une nouvelle, alors classe politique, faut pas exagérer. C'est pas le cas de tous les nouveaux élus, mais malgré tout, que ce soit évidemment chez En Marche, mais pas uniquement chez En Marche, on a vu arriver à la politique des gens qui avaient plutôt des parcours privés. Et alors, ce qui serait intéressant, c'est que en France, désormais, comme ça se fait dans bien des démocraties abouties, européennes ou autres, les allers-retours se banalisent en quelque sorte. Moi non plus, je veux pas croire que Cécile Duflot, elle est jeune, elle a quoi, 42, 43 ans, j'ai du mal à croire qu'elle tourne définitivement la page de la politique, ne serait-ce que, parce que comme je viens de le dire, c'est une pure politique, elle y croit encore. Mais qu'elle aille mettre en quelque sorte ce savoir-faire, un politique, malgré tout, c'est pas que des gens totalement pourris, égoïstes, etc. Ce sont aussi des gens qui cherchent un petit peu le bien commun, qui allaient mettre ça au service du privé ou d'une ONG en l'occurrence, mais c'est vrai pour elles, c'est vrai pour nous, pour après revenir en politique, faire des allers-retours comme ça. Moi, ça me paraît plutôt un fonctionnement assez sain qu'il faudrait développer, parce que aujourd'hui, il ne fonctionne pas.
Pierre Jacquemin. Oui, je peux pas ne pas m'empêcher de penser quand même que dans les choix qui ont été ceux qu'elle était amenée à faire là en ce moment, il y a aussi le fait qu'être une femme en politique, pardon de le rappeler, mais c'est toujours aussi compliqué. C'est toujours aussi compliqué. Rappelez-vous tous les sifflets qu'elle a subis à l'Assemblée nationale, ça n'est pas si simple que ça. Pour avoir travaillé avec d'autres femmes politiques, je sais que toujours une femme, quand elle se présente à une élection, c'est une opportuniste, c'est une femme de conviction qui a subi beaucoup de misogynie dans la sphère politique et que ça arrive souvent aux femmes de quitter leur fonction.
Je rappellerai juste qu'aux dernières municipales, nous n'avions quasiment que des candidates femmes. Et par ailleurs, arrêtons, parce que être une femme aujourd'hui et en politique comme dans bien d'autres domaines, vous sert et est un argument pour mettre de côté les mâles blancs. De plus de 50 ans.
Bon, écoutez, d'accord. Les informés de France Info. Ça doit se terminer. Merci beaucoup, Bérénice Levé, d'être passé. Merci, Pierre Jacquemin. Mathieu Aron, la une de l'Obs cette semaine.
Alors, vous avez sûrement en tête cet immense best-seller qui est La vie secrète des arbres. Oui. Et le même auteur sort La vie secrète des animaux et il nous confie en exclusivité ce qu'il écrit dans ce livre.
Et c'est assez étonnant d'ailleurs. Hein.
L'animaux nous ressemblent beaucoup ou qu'on ressemble beaucoup aux animaux.
Oui, c'est ça, exactement. Henri Vernet, la une du Parisien aujourd'hui en France.
Eh bien, nous, c'est consacré à la maladie de Parkinson avec de nouveaux espoirs. Pour contrer ce mal.
Allez, il est temps pour nous de retrouver Jean-François Aquili. Bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
Pour Tout est politique au programme ce soir.
Dans un instant, le résultat de notre sondage Doxa Dentsu Consulting sur pour ou contre la grève SNCF. Nous allons parler de dialogue social ce soir avec Raymond Soubi, le président d'Alixio Conseil, avec Pierre Ferracci, le président du groupe Alpha, avec Édouard Le Cerf de l'Institut BVA et Isabelle Chailloux de France Info.
Tout le monde ce soir, c'est incroyable. Et Tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.